Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de NineNarTree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Activer ses neurones pour mieux apprendre et enseigner est un ouvrage de neuroéducation publié en 2020 par Steve Masson, professeur à l'Université du Québec à Montréal et directeur de laboratoire en neuroéducation. Il ne propose pas une théorie générale du cerveau ni une recette pédagogique universelle. Son objectif est plus circonscrit, mettre en relation des résultats issus des neurosciences, de la psychologie et de la recherche en éducation afin de dégager 7 principes utiles pour apprendre durablement et organiser un enseignement plus efficace. Le livre vise aussi bien les élèves et étudiants que les parents, enseignants, formateurs et adultes en formation. Sa démarche associe vulgarisation, présentation de résultats de recherche et exemples de mise en pratique. Masson insiste sur le rôle de l'activité mentale de l'apprenant, sur la réactivation planifiée des connaissances et sur la qualité des retours reçus. Il se distingue également par une prudence méthodologique, les effets observés dans les études doivent être interprétés selon la tâche, le niveau de difficulté et le contexte pédagogique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une neuroéducation fondée sur la convergence des recherches. Le point de départ du livre consiste à éviter deux écueils fréquents, réduire enseignement à des intuitions personnelles, ou invoquer le cerveau comme une autorité qui suffirait à valider une pratique. Steve Masson mobilise des travaux relevant de plusieurs domaines, notamment les neurosciences, la psychologie cognitive et les sciences de l'éducation. Cette convergence importe car une recommandation gagne en solidité lorsqu'elle reste compatible avec des observations provenant de méthodes différentes. Les 7 principes ne sont donc pas présentés comme des découvertes miraculeuses, mais comme des repères soutenus par un ensemble de données. Le livre rend cette base scientifique utilisable sans demander au lecteur de maîtriser le vocabulaire spécialisé ou les protocoles expérimentaux. Cette ambition pratique explique la place accordée aux exemples de classe, aux habitudes de révision et aux situations de formation. La démarche conserve cependant une dimension critique. Un résultat moyen, issu de nombreuses études, ne devient pas automatiquement une règle rigide pour chaque personne et chaque activité. La difficulté de la tâche, les connaissances déjà acquises, le moment où intervient une intervention et les contraintes du contexte modifient les choix pertinents. Le livre défend ainsi une pédagogie informée par les preuves, plutôt qu'une pédagogie mécanique prétendant appliquer les neurosciences directement. Deuxièmement, rendre apprentissage actif par la récupération et explication. Un axe central de activer ses neurones est que exposition à une information ne garantit ni compréhension ni mémorisation. Lire, écouter ou relire peut donner une impression de familiarité, mais cette impression ne prouve pas que la connaissance sera disponible plus tard. Masson met donc en avant une approche active dans laquelle apprenant doit traiter le contenu, répondre à des questions et produire une explication. Parmi les moyens privilégiés figurent entraînement à la récupération en mémoire. Chercher une réponse avant de la consulter oblige à réactiver les traces de apprentissage et permet de repérer plus clairement les lacunes. Les tests, quiz ou questions ne servent alors pas seulement à classer les élèves, ils deviennent des instruments de consolidation et de diagnostic. Le principe de l'élaboration complète ce travail. Expliquer avec ses propres mots, relier une idée à des connaissances antérieures ou justifier une réponse pousse à organiser le savoir au lieu de le répéter passivement. Cette distinction a des implications concrètes. Un enseignant peut interrompre une présentation par des questions courtes, demander une justification ou inviter les élèves à comparer des solutions. Un étudiant peut remplacer une partie de ses relectures par des rappels sans support et des explications écrites. Ces activités demandent davantage d'efforts immédiats, mais elles visent précisément une utilisation ultérieure, plus fiable, des connaissances. Troisièmement, planifier des réactivations espacées plutôt que concentrer les révisions, le livre oppose la répétition massée, souvent associée aux révisions intensives de dernière minute, à une planification de plusieurs moments de réactivation. Lorsque les occasions de travailler une notion sont distribuées dans le temps, apprenant doit de nouveau accéder à une connaissance qui commence à devenir moins immédiatement disponible. Cet effort de rappel participe à la consolidation et rend visible ce qui doit encore être retravaillé. Le principe ne se limite donc pas à répéter plus longtemps, il organise le retour des contenus selon un calendrier. Masson associe cette répartition à entrelacement des apprentissages, qui consiste à alterner ou mêler des contenus et des types de problèmes au lieu de pratiquer une seule catégorie de façon prolongée. Cette organisation peut être moins confortable que la répétition immédiate, car elle réduit la sensation de fluidité. Elle correspond toutefois mieux aux situations où il faut identifier une méthode pertinente ou mobiliser une notion après un délai. Les applications pédagogiques sont simples dans leur principe, mais exigent une préparation régulière. Des fiches de questions, des rappels brefs en début de cours, des exercices cumulant des acquis anciens et récents ou un calendrier personnel de révision constituent des dispositifs possibles. Un exemple rapporté dans les usages du livre repose sur des réactivations prévues à plusieurs échéances après le cours. La valeur de cette méthode tient moins à un calendrier universel qu'à la régularité des retours, aux rappels actifs et à l'adaptation des révisions aux erreurs constatées. Quatrièmement, utiliser la rétroaction sans surcharger l'activité cognitive. La rétroaction constitue un autre levier majeur. Mais Steve Masson refuse une règle simpliste selon laquelle un retour immédiat serait toujours optimal. Un retour rapide aide souvent apprenant à corriger une erreur avant que celle-ci ne se stabilise et à vérifier la justesse de son raisonnement. Dans un exercice de récupération, connaître la réponse ou recevoir une indication après avoir cherché peut ainsi guider la suite du travail. Pour autant, le moment du retour doit tenir compte de la nature de l'activité. Lorsqu'une tâche est complexe, une intervention trop précoce ou trop abondante peut interrompre la réflexion et augmenter la charge cognitive. Dans certaines situations où le risque de persister dans l'erreur est faible, un retour différé peut laisser davantage de place à autonomie, à exploration et à traitement personnel. Cette nuance est importante pour les enseignants comme pour les personnes qui étudient seules. Maximiser la rétroaction ne signifie pas multiplier des corrections indifférenciées. Il faut rendre les erreurs repérables, fournir une information exploitable et choisir un rythme qui soutient l'apprentissage au lieu de le fragmenter. Le livre invite donc à distinguer évaluation et apprentissage. Une question accompagnée de retour sert autant à faire progresser qu'à mesurer. Cette perspective favorise des exercices courts, fréquents et corrigés de manière utile, plutôt que des contrôles rares dont le résultat arrive trop tard pour orienter efficacement les révisions. En dernier lieu, un état esprit dynamique et un environnement propice à attention. Le dernier ensemble de principes concerne les conditions psychologiques et matérielles qui rendent les stratégies précédentes réellement utilisables. Masson défend un état esprit dynamique, les capacités de apprentissage peuvent évoluer grâce au travail, aux stratégies et aux occasions de progresser. Cette idée ne revient pas à nier les différences entre personnes ni à promettre une réussite automatique. Elle vise plutôt à empêcher qu'une conception figée des aptitudes décourage l'effort, la recherche de méthodes ou la persévérance devant erreur. Dans ce cadre, une difficulté devient une information sur ce qui reste à comprendre et non une preuve définitive de incapacité. Le livre relie cette position à la plasticité du cerveau tout en restant éloigné des affirmations excessives souvent associées aux neuromythes. Les choix de environnement comptent également. Une classe ou un espace de travail trop chargé en stimulation peut détourner l'attention des éléments pertinents et compliquer le traitement de l'information. Cette observation conduit à examiner la décoration, les supports visuels, les consignes et le rythme des activités en fonction de leur utilité cognitive réelle. Le sujet ne consiste pas à dépouiller tout environnement, mais à éviter que des éléments séduisants entrent en concurrence avec l'objectif de l'apprentissage. Ainsi, le livre articule confiance dans la capacité de progresser, attention aux obstacles concrets et usage de stratégies fondées sur la récupération, espacement et retour sur erreur. En conclusion, activer ces neurones convient particulièrement aux enseignants et formateurs qui cherchent un cadre de décision solide pour revoir des pratiques de cours, de révision ou de correction. Il sera aussi utile aux étudiants et aux adultes qui souhaitent remplacer une partie de la relecture passive et du travail concentré de dernière minute par des méthodes plus structurées. Les parents peuvent y trouver des repères pour accompagner un enfant sans transformer chaque difficulté en jugement sur ses capacités. Le bénéfice pratique du livre réside dans la traduction de principes généraux en gestes pédagogiques reconnaissables, questionnés avant de donner la réponse. Programmer des retours sur les notions, demander des explications, organiser des exercices cumulés et utiliser les erreurs pour guider le travail suivant. Son intérêt intellectuel tient à une présentation prudente de la neuroéducation. Au lieu de promettre une méthode fondée sur le cerveau qui résoudrait tous les problèmes scolaires, Steve Masson montre pourquoi les résultats de recherche exigent une interprétation contextualisée. La discussion sur le moment approprié pour donner une rétroaction illustre bien cette réserve. Comparé à des ouvrages de vulgarisation plus prescriptifs ou plus centrés sur des slogans neuroscientifiques, celui-ci se distingue par son ancrage simultané dans la recherche, la pédagogie et les limites de l'application. Les lecteurs déjà familiers des sciences cognitives retrouveront certains principes connus, mais pourront apprécier leur mise en cohérence et les nuances apportées. Pour un public moins averti, il offre une entrée claire et structurée dans des pratiques de apprentissage durable. Si vous souhaitez soutenir Steve Masson, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.